Bon, il est 13h05, beaucoup de choses dans la prochaine heure, mais là, je vais aller rejoindre Louis Lacroix sur la colline parlementaire à Québec, notre chef de bureau là-bas. Allô, Louis Lacroix?
Yeah, comment
yes,
ça va?
Yes, sir! Ah, boy. Bon, mais fait qu'on a parlé de nom en français, l'Assemblée.
Oui, exactement. Tout le monde a déchiré sa chemise avec un peu de raison, je pense, là, sur la décision. En fait, une démarche de Hockey Canada qui a demandé à un des annonceurs, en fait, maison là aux Olympiques de Pyeongchang, de prononcer le nom des joueurs francophones de l'équipe canadienne à l'anglaise. Alors, l'annonceur en question, c'est un Québécois qui s'appelle Sébastien Goulet, qui donc travaille là-bas, là, le temps des Jeux. Puis là, ben, il y a quelqu'un d'Équipe Canada qui a dit, ben là, tu pourrais-tu prononcer les noms à l'anglaise? Alors, ça s'est su, et puis, évidemment, ça n'a pas fait l'affaire ni de l'opposition, ni du gouvernement. Philippe Couillard a dit tout à l'heure que c'était une décision ridicule, qu'il espérait qu'Équipe Canada va envoyer une autre directive pour rectifier le tir, parce que il dit que ça n'a pas de bon sens. Ça a été le même commentaire, même type de commentaire de Pascal Bérubé, le leader de l'opposition. Aussi Marie Montpetit, la ministre responsable de la langue française, qui a dit que c'était une insulte pour les joueurs francophones, mais aussi pour les annonceurs là, qui ont prononcé les noms là-bas. Alors, évidemment, c'est un peu une maladresse d'Équipe Canada qui réfère, en fait, à son site Internet, là, qui dit, regardez, allez voir le site Internet, puis référez-vous à la vidéo de présentation des joueurs qui a été mise en ligne sur le site Internet d'Hockey Canada, puis vous allez comprendre comment on veut que les noms soient prononcés. Sauf que la vidéo en question, c'est une vidéo qui est exclusivement anglophone. C'est-à-dire que tu vas entendre, par exemple, Maxime Noreau qui dit, qui prononce son nom à la française, là, qui dit Maxime Noreau, mais par la suite, il dit Québec, Montréal. Alors, tu sais, il n'y a pas eu de francisation, il n'y a pas eu d'effort qui a été fait sur aucune des vidéos sur le site là, pour faire un pendant francophone là, de cet organisme-là qui a choisi, qui gère Équipe Canada là, à Pyeongchang.
Bon, il me semblait qu'il nous manquait une petite controverse olympique là, à l'Assemblée nationale. Il y en a toujours eu.
Oui, c'est ça. Mais ben, là, tout le monde est rentré dedans. D'habitude, ça, c'est le genre de le pain et le beurre du Parti québécois.
Du PQ,
mais là,
ben oui.
Tout le monde a marqué dans la controverse.
OK, grosse annonce aujourd'hui. On s'en doutait, mais le doyen quitte.
Oui, mais en fait, c'est pas annoncé encore. Ça va l'être samedi. Je t'en ai parlé la semaine dernière, là, que ça s'en venait, que c'était imminent. Il
ouais.
y a dans le comté d'Abitibi-Ouest, qui est le comté de François Gendron, la réunion de l'exécutif là, pour la prochaine élection. Là, c'est samedi prochain, l'association de comté qui se réunit. Et François Gendron va faire une annonce importante. Tu comprends que si tu veux te présenter une autre fois pour un autre mandat, tu fais pas une annonce importante.
Oui, bien sûr.
Je me présente, ça finit là. T'sais. Alors, François Gendron, c'est le doyen. Ça fait plus de 41 ans qu'il siège à l'Assemblée nationale. Il a été élu à l'élection de 1976, là, celle qui avait amené le gouvernement péquiste de René Lévesque à l'époque. Alors, il a connu toutes sortes de fonctions, là, si on veut. Il a été ministre, il a été président de l'Assemblée nationale, il a été whip, il a été leader, il a fait un paquet de trucs. Alors, donc, là, il veut passer la main, il veut faire autre chose. Je sais que son épouse a certains problèmes de santé, problèmes de mobilité, si on veut, là. Donc, il veut se consacrer beaucoup plus aux affaires de famille, puis profiter du fait qu'il est encore très en forme. François Gendron, là, c'est une force de la nature, là, il a 73 ans, puis il est encore très, très en forme. Donc, il va passer plus de temps à son chalet dans la région de Lafare, en Abitibi. Et puis, donc, pour lui, là, c'est le dernier tour de piste, là, jusqu'à l'élection il va rester en poste, évidemment, jusqu'à l'élection du 1er octobre, mais par la suite, il ne devrait pas se représenter.
Bon. Nouveau look pour Jean-François Lisée. On change la couleur des cheveux, les nouvelles lunettes un peu à la Superman. Écoute.
Ben là, écoute, c'était un peu une controverse qui n'en est pas une. Hier, c'est Antoine Robitaille, qui est chroniqueur chez nous, qui travaille au Journal de Montréal également, là, qui est le chef du bureau d'enquête du Journal de Montréal, qui a remarqué qu'il y avait peut-être un petit changement dans la coiffure de Jean-François Lisée. Et puis, il a tweeté ça. Il a dit, je pense qu'il se teint les cheveux. Et puis là, c'est parti un peu un peu en peur, cette histoire-là. Là. Puis Jean-François Lisée est arrivé ce matin parce que Bernard Drainville, qui travaille pour notre station sœur de 98.5 à Montréal, l'a dit ce matin dans sa chronique, a dit que c'était tu sais, qu'il a fait remarquer là, qu'il y avait peut-être un changement de look de Jean-François Lisée. Alors Jean-François Lisée a joué le jeu ce matin, il est arrivé avec en badinant un peu là, en disant que sa femme, ou en fait sa blonde, avait pris le contrôle de son look et qu'elle lui avait recommandé de se teindre les cheveux, ce qu'il a fait. Alors, les cheveux, mettons d'un blond gris, si on veut. Là. Tu sais, là, ça aurait été drôle de le voir avec les cheveux noirs, là, mais... mais blond gris, qui est sa couleur naturelle, le blond. Alors, ça ressort un peu plus. Alors, il a joué le jeu un peu. Puis là, il a sorti ses lunettes, des lunettes, comme tu le dis, un peu à la Superman. Là. Et puis, il a joué un peu avec ça. Il a dit, écoute, on me dit que je pourrais aller chercher 4 comtés avec les nouveaux looks.
Ben oui.
Donc, c'est un peu à la blague, évidemment. Là. Alors, il a joué le jeu un peu là-dessus ce matin en disant qu'il allait, il avait effectivement changé son look. Puis il y a des souliers un petit peu plus jeunes. Tu sais, on sent là, qu'il y a peut-être une volonté de rajeunir le l'image du chef, en fait, au Parti québécois.
Louis, donne-moi une minute, je veux philosopher un petit peu.
Ah oui,
dans l'optique là, de l'égalité à l'Assemblée nationale, puis tout le monde est égal, est-ce qu'on se permettrait, comme média, de dire qu'une élue a les cheveux teints? Est-ce qu'on parlerait de la teinture d'une femme?
Ben, on l'a fait il n'y a pas si longtemps.
Ah oui?
Ben, on avait parlé d'Agnès Maltais, mais c'est elle-même qui l'avait dit.
Ah oui?
Agnès Maltais avait les cheveux blonds jusqu'à l'an passé.
Oui, puis là, ils sont gris.
Puis là, ils sont gris.
Mais là, ils sont potins, ils sont naturels.
Non, c'est ça. Mais ils sont revenus à sa couleur naturelle. C'est plus blanc que gris, là.
Ouais, c'est ça.
Mais elle a décidé du jour au lendemain que c'était fini la teinture. Mais tu sais, mais effectivement, c'est quelque chose qui. On peut passer des commentaires sur les hommes, mais on ne le ferait pas sur une femme.
On va parler de bien des filles qui ont des teintures, moi, à Québec, là, que je trouve pas ça bien beau.
Je t'annonce qu'il y a plein de filles. La moitié des femmes qui siègent à l'Assemblée nationale ont un cheveu teint.
On parle pas de ça. Mais quand c'est un gars, par exemple, hein, deux poids, deux... Ouais. Ça, c'est comme les roses, Louis, hein, l'autre jour à Saint-Valentin. Seigneur, Seigneur, je m'ennuie des fois. De ces
d'ailleurs, on a vu Julie Boulay. Moi, je ne l'ai pas vue parce que j'étais pas au Salon Bleu quand c'est arrivé, mais semble-t-il que, selon Sébastien Bovet de Radio-Canada, Julie Boulay, quand Jacques Chagnon est allé porter des fleurs ou a fait mettre les fleurs sur les pupitres des députées féminines, Julie Boulay s'est promenée et elle a ramassé les fleurs.
Ah oui?
Oui. Elle a ramassé les fleurs, puis là, on a demandé pourquoi elle avait fait ça. Puis il y a eu 3 versions. Elle a dit, c'était pour donner aux gens qui travaillent au WIT. Puis après ça, il y avait d'autres raisons pour donner aux collègues masculins, etc. Elle a eu l'air un peu pingre, mettons.
Cheap, oui, cheap. On a un ici, un employé cheap, Mathieu Loca. Mais, oui, il est bien cheap. Hey, mais d'ailleurs, Agnès Maltais est allée redonner sa rose à...
Oui, Jacques, tu l'avais dit, ça.
Oui.
Ben, en fait, c'était pas Jacques Chagnon, elle l'a donné, c'est parce que c'était François Gendron qui était là à ce moment-là. C'est parce que c'est tout juste avant la période de questions, pendant la période de déclaration des députés.
Ouais.
C'est François Gendron, c'est le vice-président d'habitude qui préside à cette partie-là des travaux. Le président est là pour la période de questions, là, mais il y a une pause entre les deux. Puis effectivement, Agnès Maltais a pris sa rose, puis est allée apporter sur le bureau du président, un peu en dépit. On l'a vu virer talon, puis partir un peu insulté. Mais elle aurait même dit des mots pas très gentils à l'égard de M. Chagnon, semble-t-il.
Bon. Écoute, on va prendre un sujet un petit peu plus sérieux pour terminer. Il me reste quelques minutes. Mais le gouvernement du Québec renonce à un projet de voiture électrique.
Oui, c'est un peu nébuleux cette histoire-là. C'est un projet dans lequel le gouvernement était impliqué par le biais d'Investissement Québec et Hydro-Québec avec la compagnie Peugeot-Citroën. Le but, c'était d'examiner la possibilité de construire une usine d'assemblage de véhicules électriques avec une partie de la technologie qui provenait d'Hydro-Québec là, par la filière TM4 et de construire une usine de 600 millions à Bromont pour assembler des véhicules électriques haut de gamme. Alors, il y a eu des démarches, des sommes d'argent qui ont été investies là-dedans dans un projet d'étude, si on veut, dans une étude de faisabilité. Ça a coûté 14 millions à Investissement Québec, à Hydro-Québec. Citroën, Peugeot étaient prêts à mettre, avec des partenaires privés, 400 millions, mais il aurait fallu réinvestir en argent public à peu près 200 millions dans le projet. Or, au cours des dernières semaines, ce qu'on a appris, en fait, au début du mois de février, c'est que Investissement Québec avait retiré ses billes, avait décidé de se retirer de ce projet-là. Et là, écoute, il y avait une compagnie qui avait été formée, qui s'appelait Arion, je pense, et qui donc était tributaire, si on veut, de l'argent public comme était dans cette compagnie-là. Ouais. Alors là, en se retirant, tu sais, sortir le financement public, il te manque 200 millions, c'est un méchant trou dans le budget. Là, tu sais. Alors, la ministre, la semaine dernière, a dit que c'était Peugeot Citroën qui avait décidé de se retirer de ce projet-là. Puis finalement, Peugeot Citroën a dit non, nous autres, on était prêts à y aller. C'est pas nous autres qui nous sommes retirés. C'est les partenaires publics, en fait. C'est Investissement Québec qui s'est retiré. Alors, on a posé des questions là-dessus à Dominique Anglade, la ministre responsable, qui a dit tout à l'heure qu'il n'y avait pas, elle voyait pas, compte tenu de l'investissement qu'on allait faire, de possibilité de rentabiliser ça, parce que c'était beaucoup, c'était des sommes d'argent importantes. Et elle a dit qu'elle ne voyait pas à long terme la rentabilité de l'argent public là-dedans. Mais tu sais, ça aurait créé, soi-disant, 600 emplois dans le secteur de Bromont. Il y avait des démarches qui avaient été faites, semble-t-il, à la ville même pour qu'on puisse avoir des terrains puis commencer à construire l'usine en question. Puis finalement, ben, tout ça tombe à l'eau, bien sûr. Alors là, l'opposition soupçonne le gouvernement de vouloir privilégier la filière hydrogène. Là, tu comprends qu'il y a un intérêt pour le gouvernement dans les voitures à hydrogène. Tu te souviens là, de ce projet pilote qui a été mis de l'avant avec Toyota là, pour donner... Toyota a fourni des véhicules au gouvernement du Québec, dans la région de Québec, pour tester cette technologie-là chez nous. Donc, c'est des véhicules zéro émission qui fonctionnent à l'hydrogène. On soupçonne Québec de vouloir mettre toutes ses billes dans le même panier, si on veut, dans la filière hydrogène, parce qu'il y a quand même une possibilité importante pour Hydro-Québec là-dedans, parce qu'en ce moment, 90 ou 95 % de l'hydrogène qui est produit sur la planète est produit à partir des hydrocarbures. Alors, c'est pas nécessairement un carburant qui est propre. Quand ça brûle, ça ne fait que de l'eau, l'hydrogène, là. Mais pour produire de l'hydrogène, il y a deux façons. Soit on le fait à partir d'hydrocarbures, ce qui est très polluant, qui est encore polluant, ou encore on le fait avec de l'électricité. C'est-à-dire que tu prends de l'eau, puis tu fais de l'électrolyse, là, tu mets l'électricité dans l'eau, puis ce qui se dégage de ça, c'est de l'hydrogène. Okay. C'est de l'hydrogène qui est très propre, mais qui coûte plus cher à produire. Mais compte tenu du fait que le Québec, en fait, produit et est un des plus importants producteurs mondiaux d'hydroélectricité, l'hydrogène qu'on pourrait produire au Québec serait totalement propre, c'est-à-dire qu'il ne serait pas fait à partir d'hydrocarbures. Et ça, là-dedans, on sait que le gouvernement voit quand même une opportunité d'affaires assez importante parce que l'hydrogène, soi-disant propre, là, ben, permettrait quand même des retombées ou en fait, il y a un potentiel de commercialisation assez important à l'échelle mondiale.
Excellent. Merci beaucoup, Louis. On se retrouve.
OK. Salut,
Ben. Hey, merci. Bye. Louis Lacroix, chef de bureau sur la colline parlementaire à Québec. Courte pause et au retour, je vais vous faire un petit commentaire. Je parle de concours et Caroline Scott avec moi.